Bonjour, vous écoutez Nouvelles Perspectives, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous.
Hello.
Bonjour, bienvenue.
Hello, bonjour. Bienvenue Linda Labidi que nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir aujourd'hui pour un spécial reconversion des seniors et notamment dans l'entrepreneuriat. Comment ça va Linda?
Ça va super, je suis en très bonne compagnie.
Ah.
Tout va bien.
Aujourd'hui, donc, nous avons la joie de recevoir Linda Labidi qui va nous parler de la reconversion des seniors. Mais avant tout, je vais vous présenter un petit peu son parcours, vous dire qui elle est. Alors, et aujourd'hui, donc, on aborde un sujet qui concerne de plus en plus de monde avec le vieillissement de la population, notamment en France. C'est la reconversion et l'entrepreneuriat après 45 ans, 45 ans, on peut se dire, c'est pas très très vieux, surtout dans un monde où, où il va falloir travailler jusqu'à au moins 64 ans et certainement davantage. Et vous avez peut-être remarqué le titre de cette émission qui est volontairement un peu provocateur, c'est la revanche des vieux schnocks. Pourquoi la revanche des vieux schnocks? Parce que c'est quand même une population qui est de fait discriminée. Hein. Les chiffres sont très clairs à partir de 50 ans. On a déjà à partir de 45 ans pas mal de gens qui se plaignent d'être écartés, d'avoir des remarques, de ressentir des formes de discrimination. Pour autant, il faut travailler de plus en plus longtemps dans la vie. Donc, c'est ce paradoxe aussi que je voulais souligner. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner les soi-disant vieux schnocks à prendre leur revanche sur le marché du travail. Parce que sous cette formulation un petit peu ironique se cache une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont accumulé 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, qui ont toute une carrière derrière eux et comment on fait pour transformer cette séniorité, cette expérience en un véritable levier entrepreneurial plutôt qu'en un plafond de verre, voire qu'en un motif de discrimination. Donc aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Labidi qui est avec nous. Qui est Linda? Elle est rédactrice en chef du média Be a Boss, un média qui est connu de l'écosystème entrepreneurial. Elle est ambassadrice de Be a Boss Woman Tour, un événement qui met en lumière les femmes entrepreneurs dans toute la France. Elle est surtout, et c'est pour ça qu'on la reçoit aujourd'hui, la fondatrice des Vieux Schnock, qui est un nouveau partenaire à moi, les Vieux Schnock. Les Vieux Schnock, c'est quoi? C'est une initiative qui accompagne les profils de 45 ans et plus dans leur reconversion, notamment dans l'entrepreneuriat. Elle travaille depuis des années au cœur de l'écosystème business et médias et son parcours l'a amenée à collaborer avec des médias comme BFM Business, Forbes France, Challenge Capital ou encore C8. Autrement dit, Linda observe depuis longtemps comment naissent les entrepreneurs et comment certains se réinventent après une première vie professionnelle. Linda, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et j'ai envie de commencer simplement, Linda. Première question. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te consacrer spécifiquement aux 45 ans et plus dans le monde de l'entrepreneuriat?
Écoute, déjà, merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Pourquoi les 45 ans et plus? Parce que c'est un constat terrain, comme tu l'as souligné. Donc, moi, je travaille dans cet écosystème depuis maintenant une vingtaine d'années. Et effectivement, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de 50 ans et aujourd'hui 45 ans et plus qui se retrouvent sur le carreau. On a effectivement des entreprises qui sont contraintes parce que injonction, de geler les augmentations, de geler les perspectives d'évolution, ce qui fait que, du coup, les salariés se retrouvent un petit peu dans les placards. Donc, se trouvent contraints de quitter l'entreprise ou finissent en burn-out. Et dans d'autres cas, on négocie effectivement des départs anticipés qui sont très intéressants sur le moment, mais ensuite, puisqu'ils ne sont plus employables, on se retrouve dans un delta de 15-20 ans, puisqu'on le rappelle, l'âge de la retraite a été reculé. Où finalement, ces personnes se retrouvent sans travail, avec toujours le frigo à remplir et le loyer à payer. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a France Travail qui est de plus en plus actif. Il y a le gouvernement qui s'empare du sujet. Finalement, on est finalement dans, Aujourd'hui, dans une société, on a de plus en plus de seniors, beaucoup moins, effectivement, de juniors. Et effectivement, ça se reflète au sein des organisations. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces seniors aujourd'hui dans la société? Ben, on est obligé de les accompagner, soit pour retrouver un travail, soit, effectivement, pour les personnes comme on est très rare, à les accompagner dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà pourquoi, effectivement, on s'adresse aux seniors aujourd'hui, parce que le problème est là, bien présent, omniprésent même. Alors moi, mon parcours, il a commencé dans les médias, parce que j'ai commencé en tant que journaliste, tout simplement, à l'âge de 23 ans. Ça fait 21 ans que je suis journaliste, le temps passe vite. Je suis moi-même bientôt une vieille schnock, pour le rappeler. Dans un an, je suis considérée une vieille schnock par le monde du travail. Donc, ça fait 21 ans que j'œuvre en tant que journaliste. Et pourquoi l'économie? Parce que je suis spécialisée en économie. Parce que passionnée des entrepreneurs, passionnée d'entrepreneuriat. Donc, pendant que mes copines collaient des posters d'acteurs sur le mur, moi, je collais des posters d'entrepreneurs, je suivais leur parcours. Et puis, bah, forcément, hein, j'ai fini moi-même par sauter dans le grand bain en créant des petites structures. Au tout début, une société de production audiovisuelle spécialisée en films institutionnels que j'ai gardé 12 ans. Et que j'ai dû fermer malheureusement lors du Covid, puisqu'on était 100% événementiel. J'avais même lancé une restauration rapide entre 2012 et 2015, mais finalement ça n'a pas marché, mais on en parlera peut-être de l'échec, ça fait partie effectivement du parcours entrepreneurial. Et puis bah là, récemment, Studiepreneur avec comme marque les vieux schnocks pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc toujours dans l'écosystème média-entrepreneuriat.
Hyper intéressant. Et toi, Nathalie, sur la partie, je sais que tu es également experte en money profile. Est-ce que tu as eu à accompagner des vieux schnocks?
Dans mes bénéficiaires, surtout en bilan de compétences, j'ai pas mal de 45 ans et plus, 50 et plus, voire 55 et plus, effectivement. On redessine des parcours professionnels, parfois entrepreneuriaux, et c'est super, quoi. Enfin, c'est des populations qui ont vraiment du recul. Moi, j'y vois énormément de qualité, beaucoup moins de stress et de pression aussi à la réussite, parce que souvent, il y a une première vie où, ben, quelque part, tu vois, toute cette pression sociale que tu as de faire des enfants, de acheter une maison, de machin, et truc, tout ça, c'est un peu derrière eux. Et je trouve que quand j'accompagne effectivement des 50 ans et plus, voire 55 et plus, il y a une forme de qualité de relation, de qualité de projet et de relaxation, en fait, qui permet de faire vraiment des très beaux projets. Donc oui, très régulièrement, j'accompagne ces classes d'âge.
Je te posais la question, Nathalie, tu sais, par rapport au côté money.
Ouais, côté relation à l'argent.
Ouais, la relation à l'argent, exactement. Quelle est la relation à l'argent, bah, du coup, des personnes, on va dire, plus matures? Parce que souvent, en fait, je pense, plus on est jeune, peut-être plus on a l'engouement de réussir, make money, tu vois, faire de l'argent, etc. Et je suis curieuse de savoir un peu, voilà, est-ce qu'il y a une manière, on va dire, des croyances limitantes à certains âges, notamment sur la capacité notamment à générer un certain montant de revenus?
Ça dépend beaucoup des situations de vie, parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on travaille systématiquement, la partie money coaching, relation à l'argent. Et ça dépend beaucoup des situations de vie. Est-ce qu'il y a eu des accidents de la vie qui font que les gens se sont retrouvés en forte difficulté? Est-ce que ça a été plutôt prospère? Est-ce que les gens sont sereins? En fait, c'est un peu, tu vois, la séniorité dans la vie pro, c'est un peu un moment de dénouement de la pièce de théâtre, quelque part, où finalement, les gens, bah, s'ils ont bien investi ou pas, si ça s'est bien passé ou pas, bah, ça y est, ça s'est révélé, tu vois. Et donc, tu as des situations qui sont très différentes les unes des autres. Tu en as qui veulent prendre une forme de revanche parce qu'ils ont essayé des trucs, ça a échoué et tout, quitte à faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des croyances illimitantes. Comme il ne reste plus beaucoup de temps, il va y avoir une augmentation de ma prise de risque. Voyez la dynamique. Hein. Ouh là là, en 20 ans, il faut absolument que je rattrape les conneries si je ne veux pas être dans la merde à la retraite. Hein. J'y vais franco, mais voilà. Ou alors, tu as ceux qui sont hyper prospères, mais qui s'ennuient, qui ont d'autres formes d'insatisfaction. Et du coup, bah, la partie financière, elle va être assez apaisée. Tu vois, en termes de stress financier, en termes d'anxiété et tout. Et c'est vrai que pouvoir asseoir un projet professionnel sur une forme de sérénité financière, c'est quand même sympa. Après, bah, souvent, ce qui va se jouer, c'est est-ce que je remets aussi en question ma prospérité financière, économique, sachant que j'ai des engagements avec les enfants, etc., et petits-enfants. Est-ce que je le mets en risque ou pas? Est-ce que finalement, je me lance dans un projet principal ou est-ce que je fais un side business, tu vois? Parce que j'ai quand même envie de garder ma sécurité financière. Donc, c'est d'autres questionnements, c'est d'autres enjeux. C'est aussi peut-être un peu plus ou d'aversion à la perte quand il y a eu quand même pas mal de capitaux accumulés et de patrimoine. Et donc voilà, il va falloir faire avec l'aversion à la perte. C'est une jauge, hein, où est-ce que tu mets ta prise de risque. Ou alors effectivement, faire très attention à la précipitation, en mode j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai eu tel, je sais pas, j'ai eu des divorces, des machins, des trucs. Bon, ben, il peut y avoir une forme de, je veux, tu vois, une revanche sur tout ça, ça peut être un peu risqué dans la prise de décision. Donc voilà, ce que je vois, c'est que ce n'est pas les mêmes sujets problématiques, effectivement, que quand j'accompagne des jeunes dans la relation à l'argent. Beaucoup de choses se sont déjà passées, en fait. Et donc, on se pose des nouvelles questions. J'imagine que Linda, ça te parle, ces situations.
Totalement, totalement. Effectivement, ces deux personas, on va dire ça comme ça, entre ceux qui, effectivement, se retrouvent un peu dans la détresse de « Ok, il me reste 10 ans pour bien faire les choses parce que l'horloge tourne », sinon sont un peu plus sereins et qui s'autorisent le droit de réaliser un rêve, une passion, parce qu'ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé, la maison, les enfants, le chien, c'est fait, le crédit est payé, maintenant je m'autorise à être heureux ou heureuse. Je caricature un peu, mais on est là-dedans.
On a Rodolphe, philosophe, qui nous dit que de toute façon, on sera tous remplacés par Terminator. Voilà. Alors moi, je suis allée chercher quelques petites données démographiques et quelques infos. Donc en France, en 2026, l'âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé jusqu'à 64 ans pour ceux nés après 68. Et encore, si on a ces semestres, sinon il faut travailler jusqu'à 67, voire plus. Hein. En 2026, les personnes nées avant 68 partent entre environ 62 et 64 ans selon leur année de naissance. Cela met en lumière un paradoxe, on l'a déjà évoqué, mais je vais rentrer un peu plus en profondeur dedans. On demande aux gens de travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans au moins, alors que dans le même temps, un quart des 50 ans et plus déclarent des discriminations liées à l'âge, hein, ça c'est dans les études. Donc pour les 50 ans et plus, environ 25% déclarent avoir vécu une discrimination liée à l'âge, et parmi les demandeurs d'emploi de cette tranche, un quart disent qu'on leur a fait comprendre clairement qu'ils étaient trop âgés, donc voilà, sans ambiguïté. Ces chiffres concernent surtout les 50 ans et plus. Pour les 45 ans et plus, il n'y a pas de données précises, mais l'âge est cité comme motif de discrimination de manière récurrente à l'embauche dans 42% des cas. Donc à partir de 45 ans, il y a une personne sur deux qui dit qu'elle ressent en fait une discrimination liée à l'âge, et c'est très bien identifié à partir de 50 ans. Voilà, c'est juste que à partir de 50, c'est mieux documenté que à partir de 45. Linda, sache que moi, si je serais bientôt, je passerai les 45, j'ai 43 moi aujourd'hui. Voilà. Il y a Lionel qui nous dit que je sais bien de quoi vous parlez, j'ai presque 58 ans. Voilà, donc c'était bien une plaisanterie pour LinkedIn. Allez, une dernière citation, puis je rends la parole à Linda si ça vous dit. Donc Mohamed, troisième et dernière citation de la série. Épicure qui dit « Dépêchez-vous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne, alors lancez-vous dans l'entrepreneuriat. » Bon, très motivant.
Yes. Linda, dis-nous un peu plus sur la vision, notamment du mouvement que tu as lancé, la mission aussi, pour que les personnes puissent comprendre. Et concrètement, oui. C'est quoi la promesse, tu vois?
Oui. Je vais commencer par le nom, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça peut surprendre au départ, mais je pense que pour la plupart, vous l'avez compris, c'est un nom qui a été choisi par militantisme. Parce que comme l'a souligné Nathalie tout à l'heure, bah effectivement, c'est comme ça que notre société, voire les grandes organisations, considèrent aujourd'hui les 45 et plus comme des vieux schnocks. De ce constat-là, je me suis dit, on va leur montrer effectivement ce que valent les vieux schnocks. Pourtant, je n'étais pas encore concernée par le sujet. Mais voilà, j'étais assez sensible à cette injustice, parce que c'est une forme d'injustice. Et je fais une petite parenthèse, c'est une injustice qui est purement culturelle. On ne sait pas pourquoi il n'y a qu'en France, effectivement, qu'on observe, en tous les cas, à ce point, ce gap. Je referme la parenthèse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça les vieux schnocks. Et d'ailleurs, la revanche des vieux schnocks, le nom de votre émission, m'a inspiré le nom de la chaîne YouTube. Donc merci, c'est comme ça qu'on a appelé notre chaîne YouTube aujourd'hui. L'idée, c'est simple. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent retrouver du travail et qui n'en trouvent pas, qui arrivent à la fin de leur droit chômage et qui sont confrontés finalement à une réalité qui est que ils n'ont plus de revenus, ils n'ont pas de travail, ils doivent continuer de vivre. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai choisi de les accompagner dans leur reconversion dans l'entrepreneuriat. Et il y a la question, parce qu'on me l'a posée, mais est-ce que tu crois que tout le monde a envie de devenir entrepreneur? J'ai répondu, bien évidemment que non, mais est-ce que tu crois que vraiment ces gens ont le choix aujourd'hui que de devenir entrepreneur?
Oui.
Et par entrepreneur, attention, je ne parle pas de monter une start-up avec 20 salariés. Quand on parle d'entrepreneuriat à partir de 50 ans, dans 90% des cas, ce n'est ni plus ni moins que de créer son propre job. Tout simplement, on a été commercial, responsable IT, responsable marketing, que sais-je, pendant 10, 20, 15, 16 ans. On a une expertise. Eh bien, on va se vendre différemment sur le marché du travail parce que notre monde est schizophrène. Le profil qu'on va refuser en CDI, eh bien, on va l'accepter en facture volontiers puisque ce ne sont pas les mêmes lignes comptables. On ne paye pas de charges salariales sur la personne, etc., etc. Donc, on va tout simplement aider ces personnes à se vendre en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire à se mettre à leur compte. Et on fait face, en fait, à une deuxième idée reçue qui est que, pour la plupart, pense qu'il suffit de changer le nom sur LinkedIn et d'avoir un numéro Siret pour, effectivement, voir arriver les clients. On leur explique gentiment que ça se passe pas comme ça, l'entrepreneuriat, qu'il faut savoir se vendre, il faut avoir créé un branding, il faut savoir, effectivement, avoir une certaine posture. Et c'est différent si on fait du B2B, B2C, etc. Et c'est ça qu'on propose, c'est d'aider ces personnes à qui on n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école, à pouvoir tout simplement devenir leur carte de visite et pouvoir se vendre sur le marché du travail pour pouvoir continuer à vivre. Voilà. La promesse, c'est on vous aide à devenir entrepreneur, tout simplement, on vous accompagne. Et notre point différenciant, c'est qu'on fait du sur-mesure et uniquement du sur-mesure. On ne vend pas d'offres sur étagère. Parce qu'on part du principe que chaque profil est différent et qu'il faut tenir compte aussi de la personnalité, donc de l'individu. Donc, on ne fait que du sur-mesure. Voilà la promesse.
Et quand tu dis « on », tu peux détailler ?
Alors, officiellement, je suis toute seule. Mais je dis « on » parce que comment on fonctionne ? Moi, je fonctionne avec un réseau de partenaires. J'ai une cinquantaine de partenaires. Moi, je ne forme pas personnellement les seniors. Je vais fonctionner comme une agence à déco. C'est-à-dire que je vais connecter les personnes qui savent faire avec les personnes qui ont besoin. Un peu le genre de partenariat qu'on a mis en place avec Nathalie, notamment. On démarre à peine. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a créé un rendez-vous, par exemple, qui s'appelle le 13-13. Tous les mardis, de 13h13 à 14h, on donne la parole aux seniors. C'est gratuit, on ne vend rien. On dit aux gens, écoutez, vous avez besoin de parler. Les gens ont besoin de parler. C'est des sujets, parfois, qui sont, on ne peut pas en parler toujours avec ses proches, on ne peut pas en parler, effectivement, avec les gens qui sont autour. Ils viennent un petit peu se décharger lors de ce live qui est le 13-13 tous les mardis. Donc, ils viennent un petit peu échanger. On partage des tips, des contacts, du réseau, etc., etc. À l'issue de ce live, ils reçoivent un lien pour réserver un entretien gratuit de 30 minutes. On fait un pré-audit, on rentre un petit peu dans le dur sur qui ils sont, leurs besoins, c'est quoi le caillou dans le soulier, etc. Et à l'issue, effectivement, de ce pré-audit, on va plus loin. Donc, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, je construis l'accompagnement personnalisé. Et cet accompagnement, il inclut des personnes. C'est-à-dire que moi, je vais aller vraiment chercher la bonne expertise pour cette personne-là. Voilà. Donc, pour telle personne qui veut faire, par exemple, une conférence spectacle, on est allé chercher, on l'avait dans le réseau, la personne qui avait déjà, dans une première vie, monté effectivement des spectacles à Avignon, qui vient des cours Florent, qui sait exactement comment structurer un business dans le spectacle et pas uniquement le côté artistique. Donc voilà, on va connecter vraiment les bonnes personnes avec ceux qui ont besoin. Et du coup, on apporte cette prestation au client. Voilà comment on fait ça.
Il faudra s'adapter. Or, effectivement, il y a peu d'apprentissage de la vente à l'école, etc. Donc, il y a un décalage entre la proposition scolaire et le besoin de terrain. Et ça peut être un très gros choc pour les gens.
Oui, clairement. Mais je trouve que c'est une très belle initiative et c'est vrai que pour moi, pour les seniors qui nous écoutent, faut vraiment pas voir l'entrepreneuriat comme, soit la quatrième roue du carrosse. on dit quoi, troisième roue du carrosse plutôt, non?
Mais c'est pas la cinquième, non?
Mais vraiment, en réalité, c'est une super belle opportunité. Enfin, être entrepreneur, être à son compte, mais c'est génial. Je pense que quand on n'est pas entrepreneur, on ne peut pas le comprendre. On se dit juste, non mais moi, jamais je pourrais être entrepreneur. Parce qu'on a, on sait, c'est une montagne. Donc, bien évidemment qu'il y a derrière des stratégies à développer, il y a des compétences, effectivement, qu'il faut développer, il y a des connaissances à aller chercher. Mais derrière, moi, honnêtement, toutes les personnes qui ont fait cette transition de salarié à entrepreneur, ils disent, mais waouh, mais je vis ma meilleure vie. Mais si je savais ce que ça aurait été aussi, bien sûr que c'est challengeant, je ne dis pas que tout est facile, mais je veux dire, la liberté de choix, je pense que ça, honnêtement, c'est hyper, hyper puissant. Parce que les gens, en fait, à un moment donné, en fait, ils se rendent compte que waouh, j'ai plus besoin de demander, par exemple, l'autorisation de partir en vacances. J'ai plus besoin de demander l'autorisation de m'absenter parce que, par exemple, j'ai un enfant qui est malade ou même mon petit enfant, etc. En fait, j'ai besoin de rendre des comptes, de faire des réunions interminables, d'expliquer le pourquoi du comment, je suis en retard sur quel projet. En fait, tu deviens vraiment le capitaine de ton propre navire. Et en plus, de ce que je comprends, quand tu passes, par exemple, consultant, donc en fait, t'as déjà ton expertise, mais au lieu, effectivement, de passer sur un contrat CDI comme tout le monde, tu vas juste passer sur un contrat du coup de freelance, et ben c'est beaucoup plus souple et en plus tu peux gagner beaucoup 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 plus d'argent. Donc je pense que des fois on nous a tous vendu l'idée de la sécurité de l'emploi, l'idée que si on travaille en CDI pendant X nombre d'années, on va finir avec une retraite. Et honnêtement, les leviers de progression sont tellement plus poussés quand tu es entrepreneur, tu as tellement plus de souplesse. Surtout moi, un truc qui me fascine, c'est vraiment du coup tu as plus de plafond financier.
Mais c'est vrai qu'il y a un gros sujet. On peut, après la bascule, gagner beaucoup mieux sa vie qu'avant. Je ne sais pas si ça peut rassurer des gens. Parce que Linda l'a dit, en fait, c'est des gens qui sont pris dans une schizophrénie de la société où ils sont un peu éjectés du monde du salariat, alors que c'est justement la classe d'âge qui a beaucoup de charges. En fait, souvent les crédits immobiliers sont toujours en cours, il faut aider les enfants, des fois les petits-enfants, parce que aujourd'hui le monde du travail c'est compliqué pour les jeunes. Et donc on se retrouve finalement dans cette situation où on se fait un peu ou éjecté ou discriminé dans le monde du travail et où il y a énormément de besoins financiers et d'engagement en cours. Et heureusement finalement qu'il y a la porte de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, du freelancing qui permet de prendre ce tournant. Linda, je vois tu fais oui de la tête.
Je mettrais juste un petit warning. Ça ne marche qu'avec les personnes effectivement qui sont volontaires et qui travaillent. Oui. Parce que forcément, votre réussite dépend de votre discipline. Ça, c'est hyper important à savoir. Et effectivement, on va avoir des personnes comme Roy qui sont naturellement disciplinées. Et malheureusement, il y a des personnes, elles ont besoin d'avoir parfois un manager. Et c'est en ce sens que, effectivement, l'entrepreneuriat, il faut faire très attention. Il faut être assez OK et assez honnête avec soi-même. Si je me lance, ma réussite va dépendre de mon travail, de mon engagement. Et je mettrai en numéro 3 de mon accompagnement. Parce que, qui peut faire que ça ne fonctionne pas aussi, c'est y aller un petit peu la fleur au fusil. Je vais y aller toute seule, je vais pas payer d'accompagnement et je vais y arriver. Non, en fait, c'est un métier à part entière. Soit vous mettez un an, vous galérez, vous échouez, vous allez dire c'est la faute de l'entrepreneuriat. Soit vous vous faites accompagner, vous allez mettre 3 mois, vous allez être plus efficace, vous allez avoir effectivement des personnes qui sont déjà passées par là, qui vont vous éviter les écueils et qui vont vous permettre effectivement d'enregistrer des scores de réussite qui sont beaucoup plus intéressants. Donc voilà, c'est la discipline et se faire accompagner.